Tout à l'heure, vous disiez que les groupes financiarisés ont pompé des rentes de monopole, en particulier, finalement, ont pompé une certaine partie de la plus-value assez importante. Je n'ai pas exactement très bien compris.
Ça mérite explication, effectivement, et on peut donner l'explication dans le langage prétendu scientifique des économistes, mais on peut le donner aussi dans un langage plus courant. Je vais essayer de le faire de la deuxième manière. Le capitalisme répond à ces crises par la concentration, c'est-à-dire la constitution de monopoles ou d'oligopoles. Il a répondu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa première crise structurelle des années 1870 et à 1890 par la formation des premiers monopoles, et c'est pas étonnant, ça a commencé aux États-Unis, les trusts, comme on a un terme inventé aux États-Unis pour désigner ces nouveaux grands monopoles. Ces premiers monopoles ont été analysés à l'époque par l'anglais Hobson, l'allemand Hilferding et Lénine. Le capitalisme a répondu de la même manière à la deuxième grande crise qui a commencé en 1971 avec l'abandon de la convertibilité en or du dollar et l'effondrement des taux de croissance dans les pays capitalistes développés par une nouvelle vague de concentration, une nouvelle vague de formation d'oligopoles. Et cette deuxième vague, c'est ce que j'appelle les oligopoles d'aujourd'hui, a amené un niveau de monopolisation, disons, de concentration de la gestion de l'économie mondiale sans commune mesure avec la première vague. Lénine croyait naïvement que les monopoles tels qu'ils étaient apparus en son temps constituaient la fin de la centralisation du capital dans le capitalisme. Hélas, il avait tort et nous avons une seconde. Cette seconde vague de formation de l'oligopole, cette fois, pour la première fois, contrôle à peu près toute l'économie mondiale, directement et indirectement. Elle le contrôle à travers son contrôle du marché monétaire et financier, d'où le terme de financiarisation. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle du marché monétaire et financier? Ça veut dire que l'accès au capital est réservé, la décision et la possibilité d'accéder au capital est réservée à ces oligopoles. Quand je dis l'accès au capital, ce n'est pas l'accès de vous et moi à un emprunt de 20 000 euros ou de 50 000 pour acheter un logement ou une voiture. C'est l'accès au marché du capital pour 3 milliards d'euros ou de dollars pour une grande entreprise. Et c'est le marché dominant. Les économistes conventionnels parlent d'économie de marché. Ça ne veut rien dire. Économie de marché ne veut rien dire. Il faudrait dire économie de marché au pluriel, non pas marché E, accent aigu, mais ES, et en prenant soin de hiérarchiser ces marchés. Et le marché des capitaux est le marché dominant. C'est-à-dire que c'est l'accès au capital qui détermine l'orientation du développement économique, de la croissance économique, et conditionne tous les autres marchés, que ce soit le marché pour vendre des automobiles ou le marché pour vendre des chaussettes avec une publicité particulière, ou le marché pour vendre des services à domicile avec également une publicité particulière, et surtout, et c'est ça qui est important, le marché du travail, ou les marchés du travail, fragmentés, et la précarisation et la forme des marchés du travail dominée par ce marché financier qui est le marché dominant. Alors, le marché financier est un marché qui remplit deux fonctions. D'une part, le prélèvement sur l'ensemble des activités productives de biens et services. Encore une fois, qu'il s'agisse de produire des automobiles, des chaussettes ou la livraison à domicile de produits alimentaires ou d'autres produits. Le marché des biens et services produit la plus-value, produit les profits, la masse de profits. Mais à travers le contrôle du marché financier, les oligopoles s'approprient une bonne part de ces profits qui deviennent des rentes de monopole. Des rentes de monopole. Et C'est la raison pour laquelle la financiarisation n'est pas le produit d'un accident, n'est pas le produit de l'invention des formes d'intervention sur le marché financier, qui ne sont que des moyens, mais elle répond aux intérêts objectifs de l'oligarchie dominante, parce que c'est le moyen pour elle de ponctionner cette rente. Est-ce que c'est clair maintenant ?
J'arrive pas à comprendre la partie sur s'approprier cette plus-value. Comment le fait d'être détenteur de capital permet de capter une part importante de la plus-value ?
Les opérations financières sont motivées par les taux de change flexibles au niveau international et les taux d'intérêt dits prétendus déterminés par le marché aux différents niveaux nationaux. Ces deux marchés sont deux faux marchés, c'est-à-dire sont des marchés qui sont régulés en fait. Mais au lieu d'être régulé par l'État, à travers, comme c'était pour l'époque de Bretton Woods, en ce qui concerne les taux de change, par la négociation internationale sur les taux de change, des dévaluations éventuelles, mais décidées par les États, et les taux d'intérêt commandés par les banques centrales, c'est-à-dire des institutions d'État à l'époque, et déterminés en fonction de la politique monétaire de l'État, pour soit favoriser la croissance, soit la ralentir. Ces deux taux sont dérégulés, c'est-à-dire laissés au soi-disant marché. Le soi-disant marché en question, c'est le marché des capitaux. C'est-à-dire c'est ce marché où n'interviennent que ces oligopoles. Vous n'intervenez pas, vous, même le petit spéculateur qui croit qu'en achetant 15 actions, il participe au marché financier, c'est une rigolade. Ceux qui participent au marché financier sont ces oligopoles qui achètent et vendent quotidiennement des centaines de milliards de dollars et qui par conséquent régulent à travers cette intervention les taux de change et les taux d'intérêt. Et en fixant par cette régulation, ils font des bénéfices dans cette régulation. Ces bénéfices, j'utilise volontairement ce terme vague, ces bénéfices n'ont pas de base normale, de base naturelle. Ils sont donc prélevés sur les profits créés par... Les profits ne peuvent être créés que par l'activité productive. Ils ne peuvent pas être créés par... L'argent ne fait pas de petits. L'argent fait des petits en passant à travers la production. Le capital s'investit dans une production qui produit des profits. Mais le capital financier ne produit pas de profits. Il prélève sur les profits. Alors, ce prélèvement a la nature d'une rente. Marx avait étudié le problème d'une façon parfaite. C'est-à-dire qu'on redécouvre aujourd'hui des choses que Marx a écrites il y a 150 ans et qui sont vraies pour toutes les étapes du système capitaliste. Que l'on ait inventé au cours de cette deuxième financiarisation qui vient de se casser la figure des techniques, des formes d'intervention sur le marché du crédit, les subprimes en sont un exemple, nouvelles, est tout à fait secondaire. Marx avait déjà décrit les formes inventées en son temps pour les interventions sur le marché financier. Donc c'est un prélèvement. Et qui dit prélèvement dit rente. C'est-à-dire c'est un prélèvement qui ne crée pas de profit, mais qui prélève sur les profits créés. D'où ce que j'ai dit, les deux taux. Et ces deux taux, un groupe oligopolistique n'est pas un groupe financier. Ce ne sont pas les banques qui sont responsables. Ce ne sont pas les compagnies d'assurance qui sont responsables. Ce ne sont pas les fonds de pension qui interviennent sur les marchés financiers qui sont responsables. Parce que ces oligopoles sont des ensembles qui contrôlent à la fois les grandes institutions financières, les banques, les assurances, les fonds de pension, et les grands ensembles productifs, c'est-à-dire l'industrie du pétrole, l'industrie nucléaire, l'industrie des automobiles, le logement, parce que même si les logements appropriés privativement par des millions et des milliards peut-être maintenant de petits propriétaires, les grands oligopoles interviennent dans la construction. Si vous regardez les parcs automobiles, prenez les parcs automobiles de la ville de Paris, hein, c'est un oligopole, c'est deux ou trois oligopoles qui les contrôles. Pourquoi ? Parce que pour faire un parc dans Paris, un parc automobile, ce n'est pas avec 100 000 ou 200 000 ou 3 millions d'euros que vous pouvez le faire. Il faut que vous ayez accès au marché des capitaux qui vous donne, je ne sais pas, 500 millions d'euros peut-être, pour pouvoir le faire. Donc c'est par ce moyen qu'elle prélève cette rente de monopole. Alors ces oligopoles sont donc des oligopoles qui ne sont pas exclusivement financiers. Chaque oligopole regroupe des activités productives et des activités financières. Et alors, leurs investissements se font dans les deux sphères. Quand elles investissent dans un oligopole qui investit dans l'élargissement et l'approfondissement du système productif, produire davantage d'automobiles, ou produire des automobiles moins coûteuses, ou produire des automobiles nouvelles, plus coûteuses, mais ayant des performances supérieures. Ça, c'est un investissement productif, même si on peut l'estimer être du gaspillage avec d'autres critères. Dans ces investissements productifs, ces oligopoles ne produisent des profits qu'à un taux qui est voisin de 5%. Mais par contre, lorsqu'elles investissent dans les qu'on appelle spéculations, dans des opérations, je ne les appelle pas spéculations parce que ce sont des opérations normales, dans des opérations d'intervention sur le marché d'échange, d'intervention sur les marchés interbanques de flux financiers, donc sur le taux d'intérêt. Quand elles régulent à travers cela les taux de change et les taux d'intérêt, elles perçoivent là des bénéfices dont le taux est 15%. L'existence des deux taux est la démonstration qu'il y a une rente qui est perçue par certains sur la masse des profits. Et c'est ça la rente de monopole. J'espère que mon explication est pédago, mais c'est pas sûr. Investir en bourse, si vous êtes gagnant et pas perdant, vous gagnez de l'argent, mais vous ne créez pas. Vous ne créez pas. Ce qui crée, c'est ceux qui produisent. Mais Marx a déjà écrit ça. L'aliénation, ce qu'il appelle l'aliénation, c'est cette croyance que l'argent fait des petits par lui-même. C'est une croyance de bourgeois. Malheureusement, elle est largement partagée dans l'opinion publique générale, mais c'est une croyance fausse. L'argent ne fait pas de petits, c'est la production qui croît. Et les petits de l'argent ne sont que le prélèvement sur la production faite dans les secteurs productifs.